On rejoint maintenant Élodie Largenton pour la revue de l'actualité du Pacifique francophone. Bonjour Élodie.
Bonjour, bonjour à tous.
On vous en parlait la semaine dernière, en Nouvelle-Calédonie, un porte-conteneur de 184 mètres s'est échoué sur un récif au large de l'île de Marée. De grosses opérations sont en cours pour extraire le fioul lourd des cuves à combustible.
Plus d'une semaine après, le porte-conteneur est donc toujours échoué sur le récif avec ses 700 conteneurs et surtout ses 750 tonnes de fioul lourd. Selon le commandant de la zone maritime, Jean-Louis Fournier, interrogé par l'AFP, il n'y a pas de danger imminent de pollution. Le porte-conteneur a été mis en service cette année. Il est doté d'une double coque qui devrait permettre d'éviter l'échappement des hydrocarbures. Autre élément rassurant, le navire est resté dans une position stable et son équipage travaille à bord avec 11 experts en sauvetage maritime pour préparer le pompage du fioul. Les opérations devraient durer environ 2 semaines selon les conditions de mer. Ensuite, il y aura des opérations de renflouement qui pourraient prendre plusieurs mois. Deux spécialistes du Centre d'expertise pratique de lutte anti-pollution basé à Brest ont été dépêchés sur place pour apporter justement leur expertise. Si le risque de pollution est minime, les dégâts engendrés par l'incident risquent d'être considérables. Le récif se situe dans le parc marin de la mer de Corée. Il est forcément endommagé sur toute la longueur du bateau, fait remarquer Marc Oremus, chargé des programmes marins au WWF, le Fonds mondial pour la nature. Outre les questions environnementales, il y a des questions économiques. Le bateau se dirigeait vers le port de Nouméa en provenance de Tahiti. Parmi ces 700 conteneurs, 130 étaient destinés à la Calédonie. Il y avait notamment à bord des produits frais et du matériel médical pour l'hôpital. Précisons enfin que le récif sur lequel le porte-conteneur s'est encastré est bien connu et cartographié depuis plus d'un siècle. On change de sujet, mais on reste en Nouvelle-Calédonie. Thierry Santa vient d'être réélu président du Congrès du territoire. C'est la troisième fois qu'il est élu grâce aux voix des loyalistes. Le nouveau groupe Les Républicains Calédoniens et la plateforme Calédonie Ensemble Rassemblement LR-MPC ont voté pour lui. Cette dernière plateforme est la traduction politique logique de l'Union des loyalistes qui a marqué l'entre-deux-tours des législatives. En face, les indépendantistes sont représentés à travers deux groupes, l'UC, FLNKS et Nationalistes, et le groupe UNI. À propos des indépendantistes, ils ont marché mercredi pour interpeller les institutions sur la situation des Kanaks à 17 mois du référendum d'autodétermination. Ils étaient environ 3000 à manifester pour réclamer l'inscription automatique des Kanaks sur la liste électorale de consultation, quel que soit leur statut. Ces revendications ont été portées à la connaissance du gouvernement et du Haut-Commissaire où des manifestants ont été reçus. À noter que le dernier comité des signataires de l'accord de Nouméa avant le référendum est prévu pour la deuxième quinzaine d'octobre. Le Premier ministre français Édouard Philippe devrait se rendre en Nouvelle-Calédonie peu de temps après, en décembre.
Passons à la politique en Polynésie française avec des démissions du côté des nouveaux députés.
Oui, la députée autonomiste Nicole Sanquer a dû démissionner du gouvernement local. Elle était la ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Et le député indépendantiste Moëtei Brotherson a dû démissionner de son poste de troisième adjoint à la mairie de Faaa. C'est la conséquence de la loi sur le non-cumul des mandats. Ces nouveaux députés, avec la troisième députée polynésienne, l'autonomiste Maïla Sage, vont devoir se pencher de nouveau sur la loi Morin d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Une loi critiquée depuis sa promulgation car très peu de victimes ont réussi à être reconnues comme telles et à obtenir des compensations. Nouveau rebondissement lundi dernier, comme l'a révélé Radio 1, il y a eu de nombreuses démissions au CIVEN. Le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires perd 6 de ses membres, 6 sur 9. Alors pourquoi ces démissions? Eh bien parce que la loi Morin a récemment été modifiée et que les médecins spécialisés qui composent le comité estiment ne plus avoir aucune expertise scientifique à apporter sur les dossiers d'indemnisation. Principale conséquence, l'examen des dossiers d'indemnisation de Polynésiens est bloqué jusqu'à nouvel ordre. L'actualité en Polynésie française, c'est aussi la fin d'un long feuilleton judiciaire. L'ancien président du pays Gaston Floss et l'empereur de la Perle Robert Vann ont été définitivement mis hors de cause par la justice dans l'affaire Anuanuraro. En 2002, le pays avait acheté un atoll des Tuamotu au prix fort à Robert Vann. Mais pour la justice, Gaston Floss n'a pas donné d'ordre express à ses ministres pour racheter l'atoll. Et les liens d'amitié entre l'ancien président et Robert Vann ne peuvent être retenus retenus pour prouver le délit dans cette affaire, puisque ces liens sont inévitables en Polynésie, selon les juges, compte tenu à la fois de la taille du territoire et de la fonction des deux hommes. Cette affaire est donc close, mais Gaston Flos reste inéligible jusqu'en 2019, puisqu'il a été condamné dans d'autres affaires, et les prochaines élections territoriales auront lieu en 2018. Et puis Tahiti n'accueillera pas les Jeux du Pacifique 2019. Le pays était pourtant pressenti pour remplacer au pied levé les Tonga, qui renoncent à organiser l'événement. Mais pour le gouvernement polynésien, 2 ans, ce n'est pas assez pour préparer une telle compétition et la venue de milliers d'athlètes de tout le Pacifique.
Et puis un soldat futunien s'est vu remettre la médaille d'or de la Défense nationale avec palme.
Il a été blessé lors de l'attaque terroriste du Louvre le 3 février dernier. Un homme armé d'une machette avait attaqué sa patrouille. Le caporal futunien a été blessé à la tête avant que l'un de ses compagnons ne réussisse à neutraliser le terroriste en lui tirant dessus. Un mot de culture avec la fin du Heiva en Polynésie française. C'est le grand festival de l'année, un grand concours de chant et de danse traditionnelle qui se déroule sur 3 semaines et qui réunit des milliers de spectateurs sur la scène de Toata dans la capitale. Cette année, c'est le groupe Tamariki Poerani qui remporte le Grand Prix du jury en danse, un titre très prestigieux. Ce festival comprend aussi des concours d'artisans et de sports traditionnels. Le lancer de javelot, la course des porteurs de fruits, le copra qui consiste à décortiquer des noix de coco le plus rapidement possible. Il y a aussi le lever de pierre avec des pierres qui pèsent parfois 160 kilos. Et cette année, il y a eu le tout premier championnat du monde de grimper au cocotier. Et c'est un athlète des îles Cook qui est sacré champion du monde. Georgiona est monté à 8 mètres en moins de 6 secondes. Il devance de peu le favori Samoan et un Tahitien. Et si ça peut prêter à sourire, ces sports traditionnels demandent vraiment beaucoup de force et d'agilité. Et c'est vraiment très impressionnant à voir.
Merci beaucoup Elodie, à samedi prochain.
Merci, à la semaine prochaine.